Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à vous être connectés, donc bienvenue pour ce petit rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de symbolisme, évidemment nous allons parler d'ésotérisme, un petit peu de mythologie et aussi un petit peu d'histoire, donc un peu comme d'habitude, vous l'aurez compris. Alors, dans le monde du symbolisme et des traditions ésotériques, il y a plusieurs symboles qui reviennent assez régulièrement. L'un des plus connus, par exemple, c'est la croix. Pas forcément limitée au christianisme, hein. D'ailleurs, la croix va se retrouver dans de nombreuses traditions, avec des variables, avec par exemple les célèbres svastikas qu'on va retrouver dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, au Pays Basque, etc., et qui ont été repris tragiquement lors de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. On va trouver d'autres symboles qui sont très courants, comme par exemple le pentagramme, l'étoile à 5 branches, ou encore l'hexagramme, l'étoile à 6 branches. Mais il y en a un que l'on va retrouver de façon extrêmement courante également, c'est l'Ouroboros. Alors, j'imagine, vous connaissez tous grosso modo le symbole de l'Ouroboros, c'est-à-dire un serpent sous la forme d'un cercle qui se mord la queue, c'est-à-dire qui se dévore lui-même d'une certaine façon. Alors parfois on parle d'un serpent, parfois on parle d'un dragon. Et on va voir que ceci n'est pas toujours simple à saisir, et pourtant cela prend tout son sens. Alors voyons le plan de cette conférence pour y voir plus clair. Alors tout d'abord, une petite introduction avec le mythe du serpent-dragon. On va recadrer un petit peu quelle est cette figure du serpent, quelle est sa symbolique de façon beaucoup plus générale, puisque c'est nécessaire pour pouvoir comprendre pleinement le symbole de l'Ouroboros. Ensuite, une première partie où l'on va parler de l'histoire de l'Ouroboros, c'est-à-dire d'où est-ce que vient ce symbole, quelles sont ses origines, où est-ce qu'on va le retrouver, dans quelle tradition, dans quelle culture, etc., etc., avec de nombreux exemples, mais aussi son évolution au cours du temps. Ensuite, on va parler dans une deuxième partie donc de la symbolique de l'Ouroboros, ou plutôt, devrais-je dire, les différentes symboliques de l'Ouroboros, car vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule, et que ce sont tout un tas d'éléments qui vont composer ce symbole, lui offrant évidemment plusieurs degrés de lecture. Et ce qui va faire surtout, et c'est sûrement là le plus important, c'est que l'Ouroboros est rarement un symbole que l'on va retrouver seul. En réalité, on va le trouver souvent dans la composition d'un symbolisme plus général, puisqu'il va évoquer une idée et permettre de mettre en évidence des choses qui vont offrir une clé de lecture aux autres symboles, en l'occurrence. En gros, si l'on pouvait dire, l'Ouroboros est quasiment un symbole primaire qui va permettre de donner un cadre général et une direction cosmogonique à une lecture symbolique beaucoup plus vaste, comme on va le voir. Alors, tout d'abord, parlons quelques instants du mythe du serpent-dragon. Le mythe du serpent-dragon traverse de nombreuses civilisations où il incarne à la fois la puissance primordiale, la frontière entre le monde ordonné et les forces chaotiques. Souvent gardien, destructeur ou créateur, il apparaît comme une figure ambivalente dont la forme serpentine relie la terre, le ciel et les profondeurs. Alors, rapidement, évidemment, quand on parle de la symbolique du serpent, peut-être certains d'entre vous vont penser immédiatement au serpent de la Genèse, donc le tentateur, le diable, le malin ou Lucifer, qui a tenté, corrompu Ève et par extension Adam, ce qui va mener au péché originel et donc à la chute dans la matière. Donc, dans cette lecture, le serpent est un symbole hautement négatif, peut-on dire. Néanmoins, dans la plupart des traditions polythéistes, ou de paganisme si vous préférez, le serpent a un rôle plus ambivalent, et peut-on même dire assez positif. Déjà, le serpent a quelques particularités. Vous le savez, le serpent va muer, donc il va perdre son ancienne peau et avoir une nouvelle peau, donc c'est un symbole de régénération. Ensuite de ça, on a attribué des qualificatifs au serpent. La ruse, bien entendu, qui n'est pas forcément une qualité négative, mais également le vecteur de la sagesse. Ainsi, le serpent va se retrouver dans de nombreuses traditions initiatiques, les cultes à mystères de l'Antiquité, comme à Dionysos, à Eleusis ou Samothrace. Il va également se retrouver sur les symboles des pharaons, donc avec le serpent Ouraou qui est sur la tête couronnée d'Horus ou d'autres divinités. On va retrouver les Nagas en Inde, qui sont symboles de connaissance, les gardiens du savoir, etc., etc. Donc le serpent a un symbolisme déjà extrêmement fort. Ensuite, dans un deuxième temps, intéressons-nous au dragon. Alors le dragon, vous avez deux grandes écoles. L'école occidentale, donc du monde Moyen-Âge européen, si l'on peut dire, où on représente les dragons comme dans Le Seigneur des Anneaux, comme Smaug, comme dans différents films, avec des ailes, des grosses pattes, ils crachent du feu, et c'est une sorte de gros reptile type dinosaure, etc., etc. souvent maléfique, en l'occurrence, puisqu'on va trouver de nombreuses légendes où le héros doit affronter le dragon. C'est Lancelot du Lac, Perceval ou encore le chevalier Saint-Georges, et bien sûr l'archange Saint-Michel qui affronte le dragon, qui, ici le dragon, devient une allégorie du diable, c'est-à-dire le roi des démons, peut-on dire, symbole du mal. Mais vous avez également l'école asiatique. Alors dans l'école asiatique, le dragon n'est pas du tout représenté pareil. C'est une sorte de serpent qui vole, qui se déplace d'une façon un petit peu chimérique, ne crache pas spécialement de feu, il a des grosses moustaches très très longues, un peu comme, si vous voyez, Shenron dans Dragon Ball Z en l'occurrence. Donc les dragons en Asie ne sont pas un symbole négatif ou positif, ce sont les symboles des forces telluriques du monde, les symboles des énergies, du yin et du yang, et ils servent d'intermédiaire entre le monde céleste et le monde terrestre. Par exemple, quand un héros va monter aux cieux, on dit qu'il chevauche un dragon. Et quand un dieu descend sur terre, ça prend la forme d'un dragon qui vient s'implanter dans le monde de la matière. Exemple, dans les mythes chinois, vous avez Shen Hong, qui est une sorte de héros civilisateur, une sorte de demi-dieu, si on veut. Eh bien, vous avez sa mère, qui se promenait tranquillement dans la campagne, un dieu l'a trouvée très jolie, il est descendu sur terre sous forme d'un dragon et il l'a fécondée. Donc, symbole de fertilisation, de sagesse, de divinité, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, en réalité, le dragon asiatique, c'est un serpent. Alors maintenant, revenons en Occident. Et si on s'intéresse aux dragons de l'Antiquité, eh bien, on va s'apercevoir qu'en réalité, c'est des serpents. Vous avez par exemple le serpent qui garde la toison d'or. Jason, en quête de la toison d'or, va devoir affronter un serpent, un dragon serpent, qui garde la toison d'or. Vous savez, Héraclès qui va chercher les pommes d'or du jardin des Hespérides, et ces pommes d'or sont gardées par un serpent-dragon qui s'appelle Ladon. Vous avez encore un autre serpent-dragon, Python, qui est vaincu par le dieu Apollon. Dans tous les cas, dans les mythes grecs, le serpent-dragon est le gardien d'un trésor. Et quand on dit trésor, on ne parle pas forcément de choses matérielles, mais de trésor parfois au sens spirituel. Les pommes d'or d'immortalité, la toison d'or, symbole qui offre tout un tas de clés de lecture. Mais ça pourrait être la même chose avec le Graal, par exemple. Donc le serpent-dragon, vecteur de sagesse, gardien de la connaissance, etc., etc. Et donc, revenons à notre serpent de la Genèse, le tentateur, celui qui incite à consommer les pommes, enfin, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, souvent assimilé à des pommes, mais ce n'était pas vrai dans l'Antiquité. Donc, gardien de la connaissance, d'une certaine façon. Et dans une lecture gnostique, eh bien, le serpent de la Genèse devient positif, puisqu'il est le vecteur par lequel Adam et Ève accèdent à la connaissance. Donc, vous voyez que ce symbolisme est déjà relativement fort. Alors, une fois qu'on a ce serpent-dragon, eh bien, on va pouvoir le mettre en scène. Et l'une des principales méthodes pour le mettre en scène, c'est évidemment sous la forme de l'Ouroboros. Alors, l'Ouroboros, là, vous avez déjà une première représentation assez simple, donc un cercle avec un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qui se dévore lui-même et qui tourne, si l'on peut dire. Alors, première partie, histoire de l'Ouroboros, d'où vient ce symbole? Eh bien, cela fera certainement plaisir à certains, puisque l'origine vient d'Égypte. Alors, l'une des premières représentations connues de l'Ouroboros, eh bien, c'est dans la tombe de Toutankhamon. Donc, on est sensiblement 1500 avant notre ère, et donc Toutankhamon, donc pharaon de son état, va être représenté avec un serpent dragon, sous la forme d'un cercle qui l'entoure. Alors là, il y a plusieurs choses intéressantes à comprendre. Dans cette représentation, Toutankhamon est le pharaon, c'est-à-dire qu'il a la représentation terrestre du pharaon régnant, c'est-à-dire de Ra, le dieu solaire. Donc quand on voit ceci qui l'entoure, on pourrait voir l'illustration d'un disque solaire, donc la divinité démiurgique, peut-on dire. Autre chose aussi, le pharaon représente le pouvoir divin sur Terre, et il est habité par ce symbole solaire. Donc là, on va déjà avoir une lecture microcosme-macrocosme entre, évidemment, le pharaon régnant et le dieu solaire, mais on peut aussi le voir avec cette représentation du serpent qui fait office de disque solaire, avec quelque chose de cosmogonique. Mais nous étudierons cela dans la symbolique tout à l'heure. Donc, la représentation en Égypte remonte à minima au Moyen-Empire, et on va le retrouver notamment dans ce qu'on appelle les textes des pyramides. Alors, textes des pyramides, oui, parce qu'il y a certaines pyramides qui ont des textes, en l'occurrence, pas aiguisée, je vous l'accorde. Eh bien, déjà, bien avant tout en Camon, on va représenter donc ces serpents dragons sous la forme de l'Ouroboros, déjà dans des textes des pyramides, qui sont en fait des textes funéraires, qui parlent de l'au-delà, du destin de l'âme, etc., etc. Retenez toutes ces informations, ce sera fondamental pour l'analyse du symbole. Autre représentation, donc ici, vous avez l'enfant Horus qui est sur un disque solaire, donc vous avez compris, donc le disque solaire qu'on appelle parfois Aton, la représentation du pouvoir de Ra dans le plan visible, et il est entouré évidemment par cet Ouroboros. Là, vous avez encore une représentation dans le monde égyptien, alors là on est sur ce qu'on va appeler l'antiquité tardive, ou même quasiment la période médiévale, puisqu'on est sur un parchemin à connotation magique, donc d'invocation, de rituel, de protection, etc., qui est écrit en copte, en l'occurrence, et on y voit donc parsemant le texte, un Ouroboros, donc un serpent-dragon en cercle, avec des inscriptions à l'intérieur du cercle également. Alors, l'Égypte est, du moins, à l'état de nos connaissances, la nation, la civilisation qui présente les plus anciennes représentations de l'Ouroboros. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des origines plus anciennes, ça veut simplement dire qu'on n'en a pas la trace sous une forme textuelle ou iconographique. Cela ne veut pas dire que intellectuellement ou religieusement parlant, ce symbole n'ait pas déjà été employé par le passé, mais il nous faut faire preuve de prudence puisqu'on ne peut pas l'attester avant l'Égypte ancienne. Néanmoins, dans le monde antique, on va retrouver l'Ouroboros à d'autres endroits. On va faire un petit bond géographique et on va s'intéresser aux traditions scandinaves, traditions des Vikings, si vous préférez. Là, vous avez sur cette image une représentation de l'Yggdrasil, c'est-à-dire l'arbre-monde, avec les 9 plans d'existence, les 9 mondes, Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, etc., etc. Et au centre, au milieu de l'arbre, sur le plan horizontal, vous avez donc le monde de Midgard. Donc le monde de Midgard, c'est le monde des hommes, le monde des humains, comme vous et moi. Et ce monde est entouré par un Ouroboros, un serpent qui fait le cercle complet du monde de Midgard, c'est-à-dire du monde terrestre des hommes. Alors retenez plusieurs informations. Le serpent de Midgard, Jormungand, entoure totalement le monde des hommes, c'est-à-dire le monde de la matière visible, tangible et observable. Alors rapidement, pour parler de ce Jormungand. Donc Jormungand, c'est un des enfants de Loki. Loki, c'est un des dieux de la tradition scandinave, un dieu qui est considéré comme le fourbe, rusé, le méchant, en gros. Il va avoir plusieurs enfants, dont Jormungand, donc le serpent monde, le serpent de Midgard, et lors du Ragnarok, c'est-à-dire la fin, le combat final entre les dieux et les géants de givre, donc les titans, si vous préférez, eh bien, Jormungand sera vaincu par Thor, dieu du tonnerre. Et ensuite, il y aura la récréation d'un nouveau monde, etc. Donc, notez juste une information, la mort du serpent de Midgard fait partie intrinsèque de la fin des temps, et donc de l'avènement d'un nouveau temps. Ça, c'est important. Maintenant, autre représentation antique d'un serpent monde, ou d'un serpent Ouroboros, ça va être Ananta, le serpent sans fin et sans limite. Attendez, je vais enlever le petit logo qui va peut-être vous déranger. Voilà. Donc, ce serpent sans fin et sans limite, c'est une créature que l'on va retrouver dans le monde de l'hindouisme. Alors, c'est une sorte de serpent cosmique qui participe à la destruction du monde et participe à sa recréation. Comprenez que dans cette lecture, il n'est pas un serpent destructeur, ce n'est pas lui, proprement parlé, qui détruit l'univers, mais il est l'outil de destruction qui est utilisé par Shiva ou par Vishnu, suivant les différentes traditions, et ce serpent, se recréant perpétuellement, va engendrer ce nouveau monde. Donc il n'est pas le créateur-destructeur, mais il est le vecteur, l'énergie de création et de destruction, du moins dans une représentation. Alors c'est intéressant parce que lui, il n'est pas représenté avec une seule tête, mais avec 1000 têtes, ce qui peut illustrer l'idée des possibilités, du champ des possibles qui est infini. Alors, on n'a pas une représentation où il revient sur lui-même exactement pour se mordre la queue, donc ce n'est pas un Ouroboros au sens stricto sensu du terme, mais néanmoins, je trouvais intéressant de le suggérer à votre attention. Alors, on va trouver une dernière représentation, alors qui est une représentation en fait médiévale, mais qui va correspondre à l'antiquité mésoaméricaine, donc dans la culture aztèque. Alors, ce n'est pas forcément évident à voir, Mais là, vous avez une représentation de la pierre du soleil, qu'on a parfois appelée le calendrier maya, mais ce n'est pas un calendrier maya, puisque c'est une pierre aztèque, ce n'est pas la même chose. Donc, composée à la fin du 15e siècle, donc à peu près au moment de la colonisation par les Espagnols. Donc, vous voyez une représentation au centre du dieu soleil, donc le soleil qui est le dieu générateur de vie d'une certaine façon, tout un tas de symboles qui représentent la cosmogonie, en fait, l'organisation du monde, du cosmos dans la mythologie des Aztèques. Mais autour du cercle, en fait, vous allez voir deux serpents qui entourent le cercle assez discrètement et qui représentent en fait les Xihuacl, les serpents de feu, qui sont les deux puissances génératrices et destructrices de l'univers. Alors encore une fois, on n'est pas sur un Ouroboros stricto sensu, puisque cette fois on a deux serpents, mais qui sont l'un encore une fois vecteur d'une polarité négative, l'autre d'une polarité positive, etc. Alors, en ce sens, on pourrait faire une comparaison, notamment avec, par exemple, le yin et le yang, donc dans les traditions chinoises, donc du taoïsme, où vous avez le yin et le yang, donc cette matière noire et cette matière blanche qui s'entremêlent, qui se chevauchent, le yin, le yang, qu'on peut aussi illustrer sous la forme de deux serpents complémentaires et antagonistes, le créateur, le destructeur, le chaud, le froid, etc., etc. Vous voyez l'idée. Alors, là, on a des représentations dans le monde antique. Maintenant, on va revenir quelques instants à son rôle, par exemple, dans la mythologie égyptienne, puisque c'est là la plus ancienne des traditions. Pourquoi je vais revenir sur l'Égypte ? Eh bien, parce que c'est la symbolique égyptienne qui a principalement nourri les alchimistes, les hermétistes et les différents adeptes de l'ésotérisme de l'Antiquité grecque, mais aussi du monde médiéval européen qui va nous intéresser par la suite. Alors, en Égypte, l'Ouroboros peut représenter plusieurs choses. Je reste en surface pour le moment, on va étudier vraiment la symbolique précise tout à l'heure. Mais en Égypte, l'Ouroboros peut représenter trois idées générales. La première, c'est qu'il peut représenter le serpent du chaos, c'est-à-dire Apophis. Dans la cosmogonie ou la théogonie égyptienne, à l'origine des temps, il y a le Noun, qui est l'océan primordial, une sorte de chaos primitif. Le champ de tous les possibles, mais sans structure. Puis Atum, la première divinité, une sorte de dieu unique, se crée par lui-même, il émerge du néant, c'est la conscience manifestée, et de là il nomme les choses, et en nommant les choses, il crée l'univers, les dieux, etc., tout ce que vous voulez. Apophis, le serpent du chaos, c'est le résidu de la création, c'est tout ce qui n'a pas été créé, c'est la destruction perpétuelle. Tous les jours, ce serpent du chaos tente de dévorer la barque du soleil, pour annihiler la création, la détruire. Et tous les jours, il est vaincu et il retourne dans le néant. Et tous les jours, ça se reproduit. Donc on a cette idée cyclique de recommencement avec ce serpent du chaos qui veut dévorer, qui n'y arrive pas et qui recommence perpétuellement. Là, en ce sens, le serpent du chaos représente la frontière entre le monde organisé, le monde divin créé par Atum, la divinité première, et le chaos informe du Noun. Il est la frontière entre les deux, le résidu qui se place à la jonction, le serpent du chaos, Apophis. Dans un deuxième sens, l'Ouroboros peut représenter le disque solaire. Le soleil, Ra, ou Ra Khepri, sa forme manifestée, Atum au matin, enfin, Khepri au matin, Ra l'après-midi et Atum au soir, donc il suit un cycle, et sa forme visible, c'est-à-dire le disque solaire observable, c'est Aton. Aton, vous en avez tous entendu parler, le culte de Akhenaton, qui est présenté à tort comme étant un monothéisme, puisqu'on dit Akhenaton ne vénérait que Aton, le dieu soleil, ce n'est pas tout à fait vrai. Akhenaton vénérait le disque solaire, Aton, qui est la représentation visible du pouvoir de Ra. C'est plus complexe, mais j'ai fait une vidéo spécifique sur Akhenaton, je vous y renvoie. Donc, en ce sens, l'Ouroboros qui est mis autour du disque solaire peut représenter en fait le chemin du soleil dans un cycle de recommencement perpétuel qui prend naissance, qui évolue, qui meurt, qui recommence perpétuellement. Donc on est sur une cyclologie, si vous voyez l'idée. Ensuite, l'Ouroboros, dans la tradition égyptienne, peut représenter une troisième symbolique qui est le principe de la mort et de la résurrection. Comme le serpent qui perd sa peau et qui recommence, eh bien ça représente aussi avec Pharaon l'idée que Pharaon vit, la naissance, il croit et il meurt. Mais ce n'est pas parce qu'il meurt que ça s'arrête, puisque le nouveau pharaon le remplace, l'esprit divin transite et continue son chemin. Donc on est sur un cycle de résurrection ou de réincarnation, si vous voulez, avec ce symbole de l'ouroboros. Vous voyez déjà, on a plusieurs éclures pour ce symbole qui se chevauchent et qui ne sont pas contradictoires, et ça c'est intéressant. Maintenant, voyons un petit peu l'évolution, notamment la représentation du symbole, par la suite. Comme vous l'avez vu, il n'y a qu'en Égypte qu'on va retrouver un ouroboros au sens strict, c'est-à-dire un serpent en cercle, un serpent-dragon, qui se mord la queue, sous un cercle parfait. Ce n'est pas tout à fait vrai en Inde, ce n'est pas tout à fait vrai en Mésoamérique, ce n'est pas tout à fait vrai chez les Nordiques non plus, etc. Alors, vous allez avoir, à la Renaissance, par exemple, Michael Mayer, qui va représenter directement le serpent-dragon, là on voit les ailes du dragon européen, donc il représente l'Ouroboros. Il l'inclut dans son traité La Talente Fugitive, quand il parle du grand œuvre alchimique. Donc l'Ouroboros est utilisé par les alchimistes, par les hermétistes, pour illustrer des idées. Par exemple, dans le cadre de l'alchimie, ce serpent circulaire incarne l'unité de la nature, la mort qui prépare la renaissance et la transformation perpétuelle de la substance, une clé visuelle essentielle de la pensée alchimique. Alors ça c'est intéressant parce qu'on trouve l'idée intéressante que le serpent dragon, il n'y en a qu'un, donc il représente l'unité, mais il est sous une forme circulaire, donc il représente un petit peu à la fois le 1 et l'infini. Vous voyez l'idée? Alors, on n'a pas attendu, enfin les alchimistes et hermétistes n'ont pas attendu Malcolm Meyer pour utiliser l'ouroboros. Déjà, Zonime de Pannonie, à l'Antiquité, donc on est à peu près au IIe siècle, parle déjà de ce symbole. La plupart des alchimistes et des hermétistes vont pas forcément toujours représenter l'ouroboros, mais vont suggérer des idées qui vont se rapprocher. Et là, ça c'est très présent par exemple dans le Corpus Hermeticum, texte majeur de l'hermétisme, qui va être composé au début de notre ère. Alors, autre représentation dans le cadre de l'alchimie et de l'hermétisme, on va trouver cette illustration qui provient d'un manuscrit arabe, donc du XVIIIe siècle. L'ouroboros y apparaît comme un cercle protecteur entourant un symbole cosmique. Le serpent mordant sa queue parsemée d'inscriptions magiques en arabe. Il définit un espace sacré à l'intérieur duquel trois oiseaux incarnent les forces célestes et terrestres autour d'un disque solaire anthropomorphe. Dans la tradition ésotérique islamique tardive, ce serpent circulaire représente l'infini, la totalité du monde et le renouvellement permanent des forces invisibles. Un symbole hermético-magique hérité de l'Antiquité, mais réinterprété dans le cadre de la magie des talismans. Enfin, autre représentation dans un cadre alchimie-hermétisme, là, on va trouver un ouroboros un petit peu différent, puisqu'on va retrouver deux dragons-serpents, l'un qui est en haut, l'un qui est en bas, et les deux se dévorent l'un l'autre et se génèrent l'un l'autre. Donc là, c'est tiré du texte Clavis Artis, un manuscrit alchimique du XVIIIe siècle, qui vient du monde germanique. On y voit un double dragon ailé formant un ouroboros parfait autour d'un arbre. Image centrale de l'alchimie européenne, la créature se dévore elle-même pour renaître, tandis que l'arbre symbolise la croissance de la matière vers son accomplissement. Ce motif, associé à la cyclicité éternelle du serpent circulaire, à la montée de la sphère vitale, exprimant l'idée que toute transformation véritable procède de la destruction créatrice au cours de l'œuvre. Alors cette représentation est intéressante parce qu'on va y trouver l'idée du dragon terrestre et du dragon céleste. Entre parenthèses, les forces ctoniennes, pulsionnelles et émotives de la terre et les forces ordonnées, créatrices du ciel. Donc le dragon céleste, qui sont séparés, mais qui ne forment qu'un, et qui se dévorent l'un l'autre, se générant l'un l'autre, donc qui traduit en fait cette idée hermétique, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas notamment, pour les miracles d'une seule chose, deux puissances opposées complémentaires, qui ne forment qu'un tout, comme par exemple le yin et le yang, et le tao chez les Chinois. Donc, ce symbole ouvre la porte à beaucoup de perceptions, mais comme nous le verrons tout à l'heure, il ne se suffit pas spécifiquement à lui-même. Mais notre histoire, tout d'abord, de l'évolution de symboles ne s'arrête pas là. Là, vous allez retrouver l'usage du symbole dans un symbole, donc un logo, qui appartient à une société initiatique ou une société secrète qui s'appelle l'Hermetic Brotherhood of Luxor, la fraternité des frères de Luxor. Société occulte qui a été fondée à la fin du 19e siècle et encore active au début 20e. L'ouroboros y forme le cercle extérieur, marquant l'unité et la clôture du monde initiatique. Au centre, l'étoile à deux triangles imbriqués exprime la correspondance entre le haut et le bas, tandis que les quatre figures zoomorphes aux angles évoquent les gardiens des directions héritées de la tradition hermétique et astrologique. Les astres, le serpent central et les visages allégoriques composent un mandala ésotérique destiné à représenter la structure subtile de l'univers et le chemin de transformation intérieure recherché par les initiés. Alors, là, c'est intéressant, puisque le Ouroboros va être très 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 souvent utilisé pour représenter les sceaux des sociétés initiatiques ou des sceaux utilisés par ces sociétés initiatiques, et en général, le Ouroboros va représenter le cercle extérieur. Donc, qui représente dans un sens l'entièreté du tout ou le contenant global. Retenez cette idée, le Ouroboros est un symbolique de contenant. Un peu comme Perceval dans Camelot qui dit que le Graal est probablement un contenant. Eh bien, c'est pareil avec l'Ouroboros. De là dire que le Graal est un Ouroboros, il y a un pas, peut-être. Alors, deuxième exemple, avec la théosophie. Là, le symbole, l'emblème de la société théosophique, hein, adopté à la fin 19e, représente l'unité des traditions spirituelles. L'Ouroboros forme le cercle extérieur, toujours pareil, image de l'éternité et du cycle cosmique, tandis que l'étoile à deux triangles entrelacés exprime l'harmonie entre esprit et matière. En son centre apparaît l'Ankh, signe égyptien de la vie, surmonté d'une svastika de bon augure et du son sacré, Om, réunissant dans un même sceau les traditions occidentales, indiennes et égyptiennes. Conçu comme un mandala universel, ce symbole théosophique affirme la vocation syncrétique et ésotérique de l'orbe fondé par Elena Blavatsky. Alors ça c'est intéressant parce que toujours pareil, l'Ouroboros va représenter le contenant, c'est-à-dire l'entièreté du tout, et ensuite on va avoir d'autres symboles, donc le fameux étoile à six branches, illustration parfaite du microcosme-macrocosme, qui est en haut et ce qui est en bas forme les miracles d'une seule chose, mais surtout leur interdépendance, leur interconnexion, l'idée que le corps et l'esprit ne forment qu'un et participent aux grandes œuvres d'une certaine façon. La clé d'Ankh, symbole du cheminement initiatique, symbole de la clé initiatique des anciens Égyptiens, bien entendu, le Om, le son divin, le son suprême à l'origine de toute chose, qui forme le centre d'une certaine façon, qui forme le croisement de l'Ouroboros d'une certaine façon sur le symbole et qui représente encore une fois le principe du divin, l'alpha oméga, dans son entièreté, le son primordial et global. On va trouver un troisième exemple qui est dans la franc-maçonnerie. Vous voyez, l'Ouroboros représente encore une fois l'extérieur du cercle pour entourer la médaille du sceau du Grand Orient de France. Donc c'est l'une des principales obédiences maçonniques françaises, hein, fondée au XVIIIe siècle, réunissant les grands symboles de la tradition maçonnique française en ce symbole. Au centre, l'équerre et le compas, qui représentent encore une fois l'étoile à six branches, hein, vous aurez compris, je pense ne rien vous apprendre sur ce point, encadrant un médaillon orné d'attributs rituels, tandis que l'œil rayonnant au sommet représente la lumière et la connaissance. Œil rayonnant, qui représente le divin, et donc on peut associer au Om le son primordial de toute chose dans le symbole précédent. La bordure circulaire appelle la perfection de l'unité de l'ordre, encadrée par la date maçonnique, symbolique bien entendu, exprimée selon le calendrier symbolique de l'Onolucis, qui consiste à rajouter 4000 ans en fait sur les dates par rapport au calendrier biblique. Composé comme un emblème de souveraineté initiatique, ce sceau affirme l'identité, l'autorité et les valeurs humanistes du Grand Orient dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Donc, toujours pareil, le cercle extérieur qui contient l'entièreté du tout. Et là, vous voyez, on en arrive tranquillement à une idée démiurgique. Tout ce qui est hors de l'Ouroboros n'existe pas. C'est le chaos, c'est le désordre. La formule qui se retrouve beaucoup chez les francs-maçons dans le rite écossais ancien accepté, Ordo ab chaos, de l'ordre naît du chaos va naître l'ordre, ou après le chaos, l'ordre, etc., selon les traductions, eh bien, on trouve un peu cette idée. Le chaos, c'est ce qui est extérieur. Le serpent-dragon, l'Ouroboros, forme le monde cohérent, ordonné, cosmogonique, si l'on peut dire. À l'extérieur, il n'y a que des ordres. Alors, on va trouver ce symbole encore une dernière fois, là où on ne l'attend pas forcément, c'est sur le monument de la Déclaration des droits de l'homme. Là, vous voyez, donc, il y a le triangle, symbole de la Trinité, des religions abrahamiques au sens large, l'œil de la Providence, le principe du divin au sens déiste ou théiste, peu importe. Et puis, vous allez voir, juste en dessous de la plaque, l'Ouroboros, Donc le serpent qui se mord la queue. Alors dans cette lecture, il ne s'agit pas forcément évidemment d'un symbole religieux, mais il s'agit de dire que la déclaration des droits de l'homme est aussi le début et la fin, le commencement et la fin de toute chose. La loi n'a ni commencement ni fin, elle doit encadrer la vie de l'humanité depuis la nuit des temps. Et donc elle supplante toutes les autres formes politiques, elle est au-dessus des formes politiques, elle est au-dessus des lois et des juridictions. En gros, la déclaration des droits de l'homme devient ici, en y mettant le Ouroboros, le commencement et la fin. Et donc, de ce fait, elle doit tout supplanter, comme si ce serait une valeur d'ordre quasiment théologique, c'est-à-dire qu'il doit supplanter les autres lois. Donc c'est une façon, encore une fois, de mettre de la valeur sur ce monument. Donc, vous l'aurez compris, le Ouroboros, c'est un symbole que l'on va utiliser pour dire quelque chose. Le symbolisme, c'est ça. Ça consiste en un langage pour exprimer des idées. Exemple, si je veux vous exprimer les croyances et les concepts d'une religion, le christianisme, l'islam, le bouddhisme ou ce que vous voulez, je vais utiliser des mots, je vais utiliser des phrases, des textes plus ou moins longs pour tenter de vous faire passer une idée. Mais parfois, un symbole va permettre de gagner du temps et immédiatement d'exprimer des idées et des concepts sans passer par les mots et qui va immédiatement imprégner votre esprit. Si on montre un symbole, immédiatement, des idées vont vous venir en tête, des images mentales, si vous préférez. Donc, l'expression « mieux vaut une image qu'un long discours » eh bien, prend tout son sens avec le symbolisme. Ça sert à ça. Or, le Ouroboros, quand on le présente, on veut dire quelque chose. Immédiatement, si vous voyez ce symbole dans une composition plus globale, comme sur la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, immédiatement, vous avez des images mentales qui vous viennent en tête. Sur ce monument, vous avez vu le triangle. Pour certains d'entre vous, vous allez dire « Ah, tiens, c'est la preuve que les francs-maçons ont participé à la Déclaration des droits de l'homme, parce que vous associez ce symbole à la franc-maçonnerie. » Mais pour un chrétien, le symbole représente immédiatement la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'œil de la Providence, au centre, pour certains, ça va vous faire penser à l'œil de Dieu, qui voit tout et en tout lieu. Pour d'autres, vous allez dire « encore un symbole franc-maçon ». Pour d'autres, vous allez vous dire « c'est le symbole du nouvel ordre mondial ». Donc, suivant vos référents culturels, suivant vos croyances, suivant vos cadres de vie, etc., un symbole va vous exprimer des images mentales qui sont parfois un petit peu différentes. Quand vous voyez le Ouroboros, en général, vous allez penser au cycle de création-destruction. Vous allez penser au principe de la vie et de la mort, etc. Vous aurez des images mentales. Alors, voyons quelles sont justement toutes les images mentales qu'a pour but de véhiculer le Ouroboros, de nous dire, sans long discours, quand on le met dans un symbole plus global, ou quand on le met tout seul, ou quand on le met dans un texte. Alors maintenant, on va parler de la symbolique de l'Ouroboros. Et en fait, quand je vous ai présenté l'histoire du symbole, je vous ai déjà plus ou moins tout dit. Puisque quand on présente les mythes qui sont associés à ce symbole, eh bien, on illustre en réalité la portée et l'enseignement de ce symbole. Le mythe n'est pas juste là pour raconter une jolie histoire. Le mythe est là pour raconter un récit, mais dans ce récit, il y a un enseignement qui est voilé, parfois avec 1, 2, 3 degrés de lecture. Cela est variable suivant les mythes, mais ils ont toujours un langage sous-jacent, une idée qu'ils veulent faire passer. Et quand on donne un mythe et qu'en plus on le nourrit de représentations symboliques comme le Ouroboros, eh bien on renforce le sens de lecture que l'on veut donner à cette histoire. Alors voyons quelques-uns des symboles de l'Ouroboros. Alors là, vous avez tout d'abord une représentation, donc un double serpent-dragon, donc l'Ouroboros, celui du bas, tellurique, chthonien, et celui du haut, céleste et divin, qui s'entre-dévorent et se génèrent l'un l'autre, la fameuse étoile à six branches manifestée par le compas et l'équerre typique de la franc-maçonnerie, vous avez les symboles planétaires, vous avez les symboles du soleil, de la lune, etc. Mais chose importante, tous ces symboles sont à l'intérieur de l'Ouroboros, et donc contenus dans un monde ordonné. Et donc la première lecture symbolique de l'Ouroboros, vous l'aurez compris, c'est le concept de l'alpha et de l'oméga, le début et la fin. Alors, en ce sens, ce symbole sera même utilisé dans un cadre chrétien. L'Ouroboros, c'est une chose unique. Il n'y a pas de serpent, Même quand il est représenté avec deux serpents, en réalité, il ne forme qu'un tout. Donc, il sait l'unité. Le 1, en numérologie, représente le point d'origine de toute chose, le Big Bang, Dieu, Allah, Yahvé, qui vous voulez, peu importe, le point d'origine de toute chose. En Chine, on va l'appeler le Tao. Que ce soit un dieu conscient, ou un dieu qui émane, ou une force à l'origine de toute chose, ou un concept premier, peu importe comment on le représente, peu importe. L'Ouroboros représente le point d'origine de toute chose. Mais, en plus d'être le point d'origine de toute chose, il est aussi la fin de toute chose. Puisqu'il forme, dans son aspect cercle, l'entièreté du tout. Tout ce qui se passe est de ce point d'origine, et tout finira dans ce point d'origine. Donc, tout comme la représentation chrétienne qui dit que Dieu est déjà là à l'origine de toute chose et sera à la fin, là à la fin de toute chose, eh bien c'est comme l'Ouroboros. Tout est contenu dans la possibilité de Dieu, tout est contenu dans la possibilité de l'Ouroboros. Il n'y a rien hors de cet alpha et de cet oméga. C'est du moins la première lecture symbolique et la plus simpliste que l'on peut faire de l'Ouroboros. Mais néanmoins, ce serait très dommage de se limiter à cela. La deuxième lecture de l'Ouroboros est bien évidemment son aspect création-destruction, ou plus précisément de transformation permanente. L'Ouroboros dévore en permanence. Serpent, gueule ouverte, il consomme. C'est le principe de la destruction de toute chose. C'est valable pour tout. Nous allons mourir, nous allons être détruits. Les plantes meurent. La planète Terre disparaîtra. Le Soleil disparaîtra. Le principe de l'Ouroboros est ce temps. Le principe du temps qui avance et qui détruit. Mais plus il avance et plus il consomme sa propre matière, plus il consomme ce qui est devant lui, plus il se nourrit de potentialités. Et donc il génère. D'où il a toujours la même taille. Donc il y a vraiment cette idée de cycle de création-destruction perpétuel et permanent. Alors on pourrait dire, ok, c'est très bien, c'est le principe de dire du temps qui détruit, la matière existe, elle n'est jamais totalement détruite, elle se transforme pour donner naissance à autre chose. Tout comme nous, nos corps, quand nous allons mourir, nous irons dans la Terre, nous nous décomposerons en tout un tas de particules complexes et nous donnerons création à d'autres choses sur un plan matériel. Mais ça ne se limite pas à l'idée de création-destruction, c'est l'idée que ceci se fait de façon permanente et en continu. Il n'y a pas un moment de création, un moment de destruction, on ne peut pas l'identifier, puisque c'est cette idée de cercle. Donc on ne peut pas identifier le point de jonction entre création et destruction, ceci est un phénomène permanent. Et c'est vrai, en permanence nous sommes en train d'être détruits, et en permanence des cellules sont en train de se créer. Le soleil n'est jamais immobile, la terre n'est jamais immobile, vous n'êtes jamais immobile, vos pensées ne sont jamais immobiles. Et donc cet Ouroboros représente vraiment cette idée de création-destruction, mais en mouvement perpétuel. Ensuite, qui va découler naturellement de cette idée de création-destruction, le troisième symbole, ce sera l'idée évidemment du cycle de la vie et de la mort. Alors, celui-là, on peut le voir sous tout un tas d'aspects. L'Ouroboros peut représenter, par ce cycle de recommencement perpétuel, le cycle des saisons. L'équinoxe, puis le solstice, puis l'équinoxe, puis le solstice, etc., etc. C'est la roue des saisons. Printemps, été, automne, hiver, etc., etc. La nature qui croît, qui meurt et qui régénère, etc., perpétuellement. Donc, cycle perpétuel de la nature. Cycle perpétuel du soleil, qui se lève à tel moment, à tel endroit, qui meurt à tel moment, à tel endroit, qui fait ceci dans un cycle de journée, qui fait ceci dans un cycle annuel, et même dans un cycle de précession des équinoxes de 25 000 et quelques années. Donc on est toujours sur une cyclologie pour le Soleil. C'est pareil pour la Lune, c'est pareil pour les astres, etc., etc. Donc, cyclologie de recommencement perpétuel, bien évidemment. Mais ça va au-delà, puisque dans une portée plus mystique, plus religieuse, ou ésotérique, peu importe, ça concerne au-delà la vie humaine. L'humain, vous, vous allez mourir. Mais de votre mort, il y a des choses qui se créent. Et donc il y a l'idée que vous entrez dans un cycle de régénération, plutôt de réincarnation. Ça, c'est illustré par exemple par le samsara chez les hindous. Vous mourrez et vous vous réincarnez. Vous mourrez et vous vous réincarnez perpétuellement, etc., etc., etc. Donc l'Ouroboros représente aussi ce recommencement perpétuel de vie et de mort qui s'alterne en permanence sans jamais s'arrêter. Rappelez-vous du symbole préalablement créateur-destructeur en mouvement perpétuel. Donc la vie et la mort n'est pas quelque chose qui a un point de délimitation fixe, mais qui est un mouvement permanent de vie et de mort. Alors là, on entre dans un phénomène encore plus large qui est la représentation cyclologique. Puisque si on peut considérer que l'ouroboros peut être adapté à l'humain au sens de sa propre création et de sa destruction, on peut l'associer aux saisons, au soleil, au cosmos, eh bien on peut l'associer beaucoup plus largement à la théogonie ou à la cosmogonie plus globale. Dans la plupart des civilisations anciennes ou des religions anciennes, il y a l'idée que le temps n'est pas linéaire, c'est-à-dire ne représente pas une ligne droite avec un début et une fin, mais représente une cyclologie perpétuelle de recommencement. C'est ce que Mircea Eliade appelle le mythe de l'éternel retour. Exemple, chez les hindous, vous avez la succession des âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, etc., etc. Avec le Kali Yuga, l'âge du chaos, et cet âge du chaos, la destruction, va amener à un nouvel âge d'or. Donc il y a l'idée que dans des temps infiniment longs, le monde ne suit pas une courbe, mais suit un cercle. Donc l'Ouroboros devient une représentation du mythe de l'éternel retour qui reviendra toujours à son point d'origine et qui recommencera perpétuellement dans un cycle de création et de destruction, de vie et de mort, et donc d'alpha et d'oméga, pour recommencer l'alpha et l'oméga perpétuellement. Alors ce mythe de succession des âges, on va le retrouver en Inde, je vous l'ai dit, mais on va le retrouver par exemple en Mésoamérique, avec la succession des âges, le cinquième soleil qui est l'âge actuel, mais qui mènera encore une fois une destruction-création, et un sixième soleil. On va retrouver la même chose chez les Incas. On trouve un peu la même chose chez les Grecs, âge d'or, âge d'argent, âge etc., 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 qui conduit à des destructions-créations périodiques. La même chose avec le Ragnarok, chez les Scandinaves. Quand il y a le commencement avec Ymir, la destruction d'Ymir par Odin, Vili et Vé, etc., les dieux, tout ce que vous voulez, tout ça finira un moment, de façon prophétique, avec le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Tous les dieux seront détruits, à l'exception d'un seul, enfin, plusieurs qui survivent, mais il y en a un qui est important, qui était mort à ce moment-là, c'est Balder, et qui ressuscite à la fin des temps. Ça vous rappelle Jésus un petit peu? Vous avez raison, ça se ressemble beaucoup. Donc Balder qui ressuscite à la fin des temps, et qui sera le dieu du nouveau monde, du nouveau cycle, de nouvelle Ouroboros d'une certaine façon, et qui amène cette destruction, création par la suite. Et on trouve la même chose. Pareil chez les Celtes, etc., etc. Alors, il y a ensuite l'idée qu'on va retrouver chez les gnostiques notamment. Je vous ai dit plusieurs fois que l'Ouroboros, au-delà de son aspect création-destruction, alpha-oméga, destructeur-créateur, il y a aussi l'idée qu'il contient, qu'il est un contenant. Rappelez-vous du mythe égyptien, il y a le chaos primitif, le Nun, le champ de tous les possibles. Puis il y a un démurge, Atum, un démurge, ou un dieu si vous préférez, qui va créer toutes les facettes de la création ordonnée, l'ordre, le monde, la cosmogonie. Et entre les deux, il y a le serpent du chaos Apophis. Ce serpent du chaos, il délimite en réalité les frontières du monde tangible. La même chose chez les Scandinaves avec Jörmungandr qui définit les limites du monde de Midgard. Si vous sortez du monde de Midgard, vous n'êtes plus dans le monde tangible. Vous êtes dans le pays des dieux, vous êtes dans le pays des géants, vous êtes dans le pays des morts, dans tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes plus dans la réalité tangible matérielle. Donc on trouve l'idée que le serpent-monde entoure le plan de la matière, c'est-à-dire le plan corporel, le plan atomique. Alors, pour les gnostiques, ceci devient une prison. Ceci devient l'œuvre du démiurge, un être malveillant, qui a créé une sorte de barrière infranchissable qui sépare le monde de la matière du monde spirituel. En gros, le serpent-dragon nous enferme dans une prison dorée et nous inflige cette prison dorée, en fait on la représente sous la forme du serpent qui se dévore lui-même, mais qui est une illustration de l'espace et du temps. Sous-entendu, notre prison matérielle est une prison d'espace-temps. Ce qui fait que nous sommes dans un endroit où les conditions posées par cet Ouroboros sont que nous allons tous mourir et renaître perpétuellement dans un cycle fermé. Et ça c'est typiquement la pensée du samsara des hindous. Donc là l'Ouroboros ne devient pas un symbole positif, mais plutôt une illustration de notre prison du monde matériel. Vous voyez l'idée? Alors, ensuite, ce symbole, il va être utilisé, bien évidemment, suivant les traditions, pour travailler. Chez les alchimistes, par exemple, l'ouroboros n'est pas un symbole négatif ou positif. Il est une constante. Il est la constante qui définit l'unité et l'absolu, le un et le tout, qui dit que toute chose fait partie de la globalité, que tout élément, que même l'atome ou la matière la plus infime, est fondamentalement de même nature que la possibilité macrocosmique du monde. Donc l'ouroboros devient le symbole de l'unité et du tout, mais devient aussi le symbole de cette transformation permanente de la matière. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? À transmuter la matière, transformer le plomb en or, mais surtout, sur un plan spirituel, il cherche à se transformer lui-même. De sa nature mortelle, humaine, à l'état, il cherche à se transmuter pour retrouver son état divin, sa lumière intérieure, pour retrouver ce corps de gloire, donc ce grand œuvre qui l'amène à un autre état d'existence. Et donc, l'ouroboros devient un processus dans cette mécanique qui dit que la transformation permanente de la matière, mais également de la spiritualité, va participer à la reconnexion avec ce point d'origine, cet alpha de l'origine. Et l'ouroboros est le chemin pour y accéder en acceptant cette transmutation permanente. Alors, maintenant, dans la lecture et l'usage que vont en faire par exemple les gnostiques, excusez-moi, je bois une gorgée, à force de trop parler. Pour les gnostiques, si l'ouroboros est l'illustration de notre prison de l'espace et du temps, eh bien, il convient de se libérer de cette prison, de s'échapper. Pour les gnostiques, il y a l'idée qu'un démiurge malveillant a créé le monde de la matière. Et il convient, pour les individus, de se reconnecter au véritable Dieu divin, lointain et inaccessible. Et nous sommes coupés de ce lien à cause de la barrière du démiurge, qui est en fait la prison de l'espace-temps, la prison matérielle. Donc en gros, le fait de comprendre les lois du cosmos, le fait de comprendre la mécanique de l'espace et du temps, le fait de comprendre la mécanique de l'ouroboros, c'est-à-dire notre prison, nous permet de nous libérer de cette prison, de briser les chaînes de l'ignorance. Et en ce sens, l'ouroboros est la prison, mais devient aussi la clé de libération si on comprend sa nature profonde. Et maintenant, ça nous amène à la vision plus complexe, théosophique, même quasiment peut-on dire, de l'ouroboros. C'est ce que j'appelle la clé cosmogonique. Dans les différentes lectures, l'ouroboros sert toujours à représenter l'entièreté du tout, le cycle de recommencement perpétuel, le cycle de vie, de mort et de résurrection. Il est une illustration de phénomènes observables, le cycle des saisons, le cycle du soleil, le cycle de précession des équinoxes, le cycle de recommencement, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, l'ouroboros est le symbole le plus simple pour exprimer le fonctionnement cosmogonique de la réalité tangible. Je dis bien de la réalité tangible. Comprendre l'ouroboros, comprendre sa mécanique, c'est quasiment le premier pas dans un cheminement initiatique de compréhension. C'est quasiment le premier des mystères dans toutes les traditions initiatiques. Ils ne vont pas forcément utiliser le symbole de l'ouroboros pour l'illustrer, mais ce symbole-là est souvent utilisé, du moins dans l'hermétisme, dans la chimie, etc., etc., pour illustrer encore une fois le premier des mystères, qui est comprendre la structure cosmogonique de l'univers. De là, l'ouroboros, on va pouvoir le complexifier. Puisque l'ouroboros, on va pouvoir le découper, par exemple, en 12 secteurs. Les 12 maisons zodiacales, les 12 apôtres du christianisme, les 12 tribus d'Israël, les 12 travaux d'Héraclès, les 12 étapes du soleil, etc., tout ce que vous voulez. Et puis, il y a l'idée qu'il y a cette tête. L'ouroboros n'est pas un cercle, c'est un cercle parfait avec un endroit, une tête active, une puissance en mouvement qui dévore et qui génère. Et là, on entre dans une symbolique de la représentation de l'individu, de Dieu, au sens macrocosmique, celui qui crée et détruit en permanence, mais aussi de l'homme, puisque nous sommes en train de mourir en permanence, et aussi de renaître en permanence sur un plan cellulaire, si vous voyez l'idée. Spirituellement, dès qu'on exprime une pensée, on crée, et immédiatement, on oublie des choses. Notre mémoire oublie des choses, on en crée de nouvelles. Donc nous sommes dans un cycle nous-mêmes de création perpétuelle et de destruction perpétuelle. Devenir Cette bouche active, c'est prendre conscience de notre capacité créatrice et de pouvoir créer comme on l'entend. Et on détruit aussi ce que l'on entend. En devenant démiurge de notre propre existence avec le Ouroboros, on peut décider de créer positivement et d'éliminer, de détruire les détritus qui sont mauvais. Chez les francs-maçons, par exemple, ce serait tailler sa pierre, éliminer les scories, laisser les métaux à la porte du temple, se perfectionner soi-même. Chez les bouddhistes, chez l'école Shingon, par exemple, ça consiste à enlever toutes les émotions négatives, se libérer de la colère, se libérer de la peur, se libérer des tourments. Quand on prend l'Ouroboros en tant que symbole personnel de création, démiurgique à notre état, eh bien, ça veut dire qu'on prend le chemin, que l'on consomme ce que l'on veut et qu'on détruit ce que l'on veut. Donc, vous voyez que l'Ouroboros est un symbole beaucoup plus complexe qu'il y paraît, mais avec cette idée surtout que ce symbole est souvent utilisé dans un cadre plus global. Par exemple, dans les sceaux des différentes fraternités occultes, pour encadrer le symbole, qui veut dire que dans le monde de la matière, dans le monde observable et tangible que l'on peut comprendre, tout est contenu à l'intérieur de l'Ouroboros, qui fait office de représentation du divin. L'étoile à six branches, le monde de la matière, le monde spirituel, les différents symboles, les planètes, les astres visibles, tout ce que vous voulez, etc. etc. Quand on le met autour d'un personnage, on lui donne des caractéristiques, on lui donne un sens, on lui donne un attribut. Donc ce symbole est utilisé pour définir titre, puissance, capacité, aptitude, etc., etc., etc. On va retrouver aussi une variante de l'Ouroboros que vous connaissez très bien, c'est par exemple le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini qui représente un 8 qui s'entremêle, eh bien ça peut illustrer une complexité de l'Ouroboros pour dire oui, il y a création-destruction permanente de façon infinie, qui forme néanmoins une unité indissociable, mais c'est un chemin tortueux, complexe, avec des péripéties, si l'on peut dire. Voilà ce que je voulais vous exprimer pour ce symbole de l'Ouroboros. Me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, le meilleur pour vous et pour vos proches, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une grosse émission, mais pas une émission live, normalement ce sera une émission en montage, donc l'émission est presque terminée, mais je garde la surprise quant au sujet de cette future émission. Des bisous et à très bientôt.